J'ai pensé à une maman ce matin. Je vais vous parler d'une maman, mais pas que de cette maman. Mais cette maman a une particularité, c'est qu'elle n'est pas décrite forcément comme une maman. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a peut-être des difficultés à l'entrevoir comme maman, puisqu'il nous est parlé que de cette femme comme d'une veuve avant d'être une maman. Et cette veuve, c'est la veuve de Sarepta. On s'arrête souvent sur l'idée que c'est une veuve, mais c'était aussi, et je le crois de tout mon cœur, avant tout une maman. C'est une maman que je vais décrire comme une maman avec une volonté et un courage étonnant. La Bible nous en parle et nous parle d'elle dans un contexte tellement particulier, tellement difficile. Élie vient juste d'aller voir Akab et lui a dit « Maintenant, à partir de maintenant, sur ma parole, il va pleuvoir ou il va s'arrêter de pleuvoir. » Et va s'en suivre tout un tas de conséquences pour la population en Israël puisqu'il ne va plus pleuvoir et ça va induire une grande famine dans le pays. Et c'est dans ce contexte-là qu'on nous parle de cette maman. Qui apparemment vient juste de rentrer dans un veuvage. Et dans ce contexte-là, je suis vraiment admiratif de cette mère qui, au travers des circonstances qu'elle vit, il y a une famine terrible, elle est veuve, et elle doit élever son enfant toute seule. Quel courage! Quel courage! Et je me dis en même temps, c'est pas si loin de notre réalité d'aujourd'hui, où des mamans sont en lutte, en combat pour élever, pour s'occuper, pour voir aux besoins de leur famille, dans des contextes de famille tellement particuliers. Et avec ça, et je le crois, un contexte spirituel difficile. J'aimerais peut-être quelques temps, pendant quelques instants, que nous puissions lire l'histoire de cette femme dans 1 Roi chapitre 17, verset 7. On pourrait considérer que l'histoire de cette femme commence un verset plus loin. Mais pour des raisons de contexte, je vais me permettre de lire le verset qui est juste avant le début de l'histoire de cette femme. Pour resituer le contexte, nous sommes dans une période de famine. Il y a une grande famine, autant spirituelle, puisque cette famine est venue du fait d'un roi, Akab, et de son épouse Jézabel, qui ont amené l'idolâtrie dans le pays et qui a plongé le pays Israël dans un profond marasme spirituel. Et cette femme est là. 1 Roi, chapitre 17, verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, entre guillemets à Élie, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je bois. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi. » Et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu m'apporteras. Tu en feras aussi pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Voilà une femme que je trouve courageuse. Elle est confrontée à tellement d'épreuves et tellement de difficultés. Il y a la famine, elle doit élever son fils seul, elle est dans une période de veuvage, elle est, selon la tradition et suivant certains commentaires bibliques, les femmes à cette époque devaient porter une tenue qui les caractérisait à tel point, et peut-être cela ne vous a pas échappé, lorsqu'Élie va arriver dans le village de suite, il va comprendre que cette femme est dans une période de veuvage. Et cela corrobore la pensée que Dieu avait donnée à Élie en lui disant « Mais j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Cette femme, je la trouve courageuse malgré son contexte. Je la trouve aussi, elle a un témoignage de foi remarquable. Ce n'est pas qu'une veuve, c'est une mère. Et je suis interpellé lorsque, à un moment donné, Élie va lui dire « Ok, prépare le repas, mais donne-le-moi. » Quel témoignage de foi. Dans une période de crise, dans une période de sécheresse et de famine, le dernier repas qui lui reste, Élie lui dit « C'est pour moi. » Waouh! Ça, c'est de la foi. Et puis, je suis interpellé d'autre chose, c'est que dans ce cœur de mère, de femme blessée par le départ de son époux, il n'y a pas une parole amère dans sa bouche, il n'y a pas une réflexion particulière. Peut-être à la place de cette femme, peut-être quelques-uns ou quelques-unes d'entre nous auraient pu dire à Élie, écoute, tu sais quoi? Tu es peut-être serviteur de Dieu, mais avec tout ce que j'ai passé, Dieu... Mon mari est décédé, je m'occupe de mon fils seul, j'ai plus de quoi manger et tu voudrais encore que je le serve. Et je trouve remarquable que dans cette femme, il y a encore une volonté de servir Dieu. Élie va lui demander à boire, elle va y aller, Élie va lui demander à manger. Pas une parole, rien qui va contrarier cette parole que Dieu va donner au travers de la bouche d'Élie. Rien qui va contrarier, qui va contrecarrer cette pensée-là. Pas un mot en disant « Mais Élie, tu sais quoi ?» Et je trouve cette femme remarquable pour tous ses aspects. Et que Dieu les bénisse, j'en suis vraiment ému pour elle. Et Dieu va se servir d'elle. Dieu va se servir d'elle pour bénir Élie. Et c'est peut-être des fois la vision qu'on en a, une vision peut-être simpliste de ce qui s'est passé. Dieu va se servir de cette femme pour bénir Élie. Mais j'aimerais nous amener sur un autre regard. Un regard qui m'amène à penser que finalement, Élie n'avait pas besoin de cette femme pour passer la famine. La preuve en est, c'est que juste avant, Élie était auprès du torrent, il était nourri, le torrent est venu à s'assécher, certes, qui amenait peut-être Élie à bouger, mais je crois que Dieu était au-delà des circonstances et pouvait permettre à Élie de fonctionner encore. Mais peut-être ce matin, j'aimerais vous amener à voir les choses différemment par rapport à ce texte et peut-être considérer que cette succession d'événements n'avait qu'un seul but, venir au secours de cette femme. Dieu n'avait pas besoin de cette femme pour maintenir le ministère d'Élie, je le crois de tout mon cœur. Preuve en est, quelques versets plus loin, lorsqu'Élie est en plein désarroi spirituel, il nous est dit que dans le désert, un ange est venu lui apporter du pain et de l'eau. Dieu n'avait pas besoin de cette femme. Mais je suis convaincu que cette femme avait tellement besoin de Dieu. Tellement besoin du secours de Dieu. Et en même temps, ça rentre tellement dans une logique spirituelle parce que Dieu, et je le crois, est fidèle à sa parole. On le sait tous. Il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Et en même temps, il ne tient pas pour responsable l'innocent. Et ce n'était pas à cette femme de faire les frais d'un conflit qu'il y avait entre Dieu et Akab. Et je crois que, au travers de ce passage, Dieu nous montre sa fidélité dans une circonstance particulière. Dieu montre qu'il est fidèle envers ses enfants, fidèle envers la veuve, l'orphelin, vis-à-vis de cette mère qui était en difficulté, mais plus encore. Dieu est un Dieu qui prend compassion ses enfants et il a vu cette mère et il est venu au secours de cette maman. Ce matin, j'aimerais peut-être prendre quelques instants pour échanger avec vous sur trois caractéristiques de l'intervention divine. Parce qu'au travers de ce que va vivre cette femme, au travers des expériences que va vivre cette femme, eh bien, on peut distinguer trois caractéristiques particulières de comment Dieu intervient. Et il fallait que Dieu intervienne dans la vie de cette femme. C'est une priorité. On le voit même à nos yeux humains, on se rend compte que quand Élie va arriver dans la vie de cette femme, il restait une poignée de farine et un peu d'huile et c'est tout. Elle en était arrivée à une telle échéance qu'elle va dire on va manger ce gâteau et puis après on va mourir. Et dans ce contexte-là, Élie va arriver. Et j'aimerais voir avec vous quelques instants ces trois caractéristiques de l'intervention divine. Au travers de ce texte, je suis tellement interpellé de comment Dieu va bénir cette femme et de la façon dans laquelle Dieu va intervenir. En allant un peu vite sur le texte, on ne se rend pas compte de tout, mais en approfondissant, et c'est ce qu'on va faire ce matin, on va se rendre compte que Dieu, et ça le premier point de l'intervention divine, est un Dieu de timing. Vous dites amen ? Ouais ? Sûr ? Quand on regarde les choses humainement, on s'aperçoit, et je l'ai dit quelques instants avant, qu'Élie va venir à la dernière limite dans la vie de cette femme. Elle allait manger ce gâteau et puis plus rien. Humainement, on pourrait se dire, oh, notre Dieu est un Dieu des extrêmes, et je le crois, mais pas que. Parce que l'intervention de Dieu dans la vie de cette femme, c'est quelque chose qui s'est préparé bien plus loin encore. Dieu, dès le départ, avait déjà les yeux fixés sur cette femme. Dieu regardait et savait exactement ce qui allait se passer. Regardez comme Dieu va intervenir. Regardez le timing de Dieu. J'ai fait exprès de commencer au verset 7. Parce que finalement, l'histoire de cette femme pourrait commencer à partir de là. Dès le verset 7, il nous est dit « Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. » Ça peut paraître anodin, mais Dieu a permis que le torrent s'arrête. Et le fait que le torrent s'arrête a eu une répercussion sur Élie, parce qu'Élie ne pouvait plus rester au torrent. Il n'y avait plus d'eau. Donc ça a amené Élie à bouger. Et Dieu va dire à Élie au verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Puisqu'il n'y a plus d'eau, Élie, va-t'en là, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » J'étais doublement interpellé parce que quelqu'un m'a fait remarquer une chose un jour. Cette femme a été appelée par Dieu alors qu'elle n'en savait rien. Dieu va ordonner sur la vie de cette femme de nourrir le prophète Élie. Quand Élie va arriver à Sarepta, regardez le timing parfait de Dieu. Il n'y a plus d'eau. Élie se met en route. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour arriver jusqu'à Sarepta. Peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. La Bible ne nous détaille pas la chose. Par contre, on sait qu'au moment où il arrive à Sarepta, il tombe sur cette femme. Alors qu'elle est en train de ramasser du bois, la Bible nous dit, et Élie avait reçu de la part de Dieu une parole précise concernant cette femme. Il va lui dire, c'est une femme veuve. Et comme je l'ai précisé juste avant, elle avait la tenue, tout pour être reconnue. Élie ne va pas se poser plus de questions, il va voir cette femme, il va lui dire « Donne-moi à boire, j'ai soif. » Et là, le timing de Dieu s'accomplit dans la vie de cette femme. Dieu est un Dieu de timing. Peut-être on a l'impression que l'intervention divine pour cette femme, l'intervention de Dieu s'est produite à la dernière limite, mais lorsqu'on regarde le texte, on s'aperçoit que longtemps à l'avance, Dieu avait calculé, Dieu avait prévu, Dieu avait déjà jalonné son intervention dans la vie de cette femme. C'est un peu comme un jeu d'échecs. Dieu a des coups d'avance sur nos vies, a une vision bien plus lointaine que la nôtre. Je pense à ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, où il nous parle de l'épreuve. Et il nous est dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, mais au travers de l'épreuve, il prépare le moyen de nous en sortir. Il prépare. Je crois que dans la vie de cette femme, c'est ce qui s'est passé. Dieu avait préparé, jalonné les choses. De telle façon qu'au moment où cette femme allait en avoir besoin, peut-être dans une extrême limite, l'intervention de Dieu allait se manifester. Je me suis dit, pour que le torrent s'assèche à un moment donné précis, regardez comme toutes les circonstances se chevauchent et permettent l'intervention de Dieu dans la vie de cette femme. Souvent, Dieu intervient comme ça. Ce n'est pas nouveau. Je vois Esther, la reine Esther. C'est un méli-mélo de circonstances qui s'entrechevauchent et qui amènent et qui ont pour résultat, et tous ces événements ont pour résultat la victoire d'Israël sur ses ennemis. On avait, lorsque j'étais à l'école biblique, on a mis toutes ces circonstances et l'objectif, on les a mis les unes aux autres. On a mis toutes ces circonstances sur une feuille de papier. Et l'objectif, c'était de relier chaque circonstance par rapport à des liens de cause à effet. Et au final, on arrivait à une feuille de papier remplie de traits parcourant la feuille. Et la feuille était pleine. Dieu est un Dieu de timing qui jalonne les circonstances longtemps à l'avance. Et le secours que cette femme va obtenir de la part de Dieu, c'était un secours prévu longtemps, longtemps à l'avance. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin dans ce que tu vis. Et si peut-être tu es dans l'attente d'une intervention divine, Dieu est en train de préparer la sortie de secours. Dieu est en train de la préparer. Il est en train de la mettre en place. Parce que comme on l'a précisé juste avant, il n'est pas un Dieu qui se trompe, il n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants, il est un Dieu qui en prend soin. Il avait vu cette femme de loin et il n'avait pas à tenir pour responsable, cette femme n'avait pas à payer les conséquences du péché d'Akab. Et Dieu va intervenir dans la vie de cette femme. Alors une intervention, un timing précis. Deuxième particularité de l'intervention divine dans la vie de cette femme, elle est particulière parce que Dieu va se servir de ce que cette femme avait à l'intérieur de sa maison. Souvent, lorsque on passe par des difficultés, on lève les yeux au ciel, on dit « Seigneur, viens bénir, que la bénédiction vienne d'en haut ». Et dans ce passage-là, qu'est-ce que va faire Dieu ? Il va aller chercher ce que cette femme avait à l'intérieur de sa maison. Elle avait de la farine, elle avait de l'huile. C'est tout ce qu'elle avait. Et Dieu va se servir de ça pour manifester sa gloire. Il y avait un potentiel caché dans sa maison. Et ce potentiel, souvent, on ne le voit pas. D'ailleurs, cette femme ne le voit pas. Lorsqu'elle va en parler, lorsqu'elle va discuter avec Élie, lorsqu'Élie va lui demander un pain, elle va dire « Oh là là, prophète, homme de Dieu !» Je n'ai qu'un peu de farine et je n'ai qu'un peu d'huile. On a l'impression et on aimerait chaque fois que le Seigneur fasse tomber la bénédiction du ciel. Mais souvent, Dieu emploie ce qui est déjà en nous. Souvent, le Seigneur prend plaisir à manifester sa gloire au travers de ce qui est déjà présent. On a plein d'exemples de cette sorte quand ce jeune garçon va venir avec ses 5 pains et 2 poissons. Quand on a cette autre veuve qui va se retrouver en difficulté par rapport aux créanciers, le prophète Élisée, cette fois-ci, va lui dire « Mais qu'as-tu dans ta maison ?» Un peu d'huile. Des fois, le Seigneur veut nous surprendre au travers de ses interventions. On aimerait que l'intervention vienne d'en haut, mais Dieu nous dit « Eh oh, va pas si loin. Regarde ce qu'il y a dans ta maison. Regarde ce qui se passe. » Et regarde ce que tu as déjà à l'intérieur de tes murs. Regarde, peut-être il y a peut-être quelque chose d'insignifiant, mais Dieu peut s'en servir. Dieu peut se manifester au travers de cela. Dieu peut utiliser ce potentiel insoupçonné pour manifester sa gloire. J'aime cette façon que Dieu a de potentialiser ce qui est en nous. Il est un Dieu de grâce, il se plaît à nous utiliser, il se plaît à se servir de nous, il se plaît à se servir de ce que nous avons, de nos faibles moyens, de nos faibles capacités pour révéler toute sa puissance et sa gloire. Et il prend plaisir en cela. Et je crois que l'intervention divine de Dieu n'est pas cette intervention auquel on pourrait, que l'on pourrait peut-être imaginer. Des fois, on dit au Seigneur, mais interviens. On donne même au Dieu les consignes sur la façon qu'il doit faire de nous bénir. C'est Seigneur, tu devrais envisager plutôt les choses de cette façon. Tu sais, Seigneur, par rapport à ce que je vis là, tu sais, lui... Ouais, je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière parce que... Mais Dieu nous prend par surprise. Dieu se révèle bien souvent au travers de ce que nous ne soupçonnions pas à l'intérieur de nos vies spirituelles. On pense par moments que l'intervention divine doit se faire comme ci, comme ça, que la bénédiction doit venir d'en haut, un petit peu comme Naaman. Hein. Je pensais que... Oui, mais Dieu, lui... ne pense pas comme nous. Et l'intervention dans la vie de cette femme, cette intervention, cette caractéristique que j'aimerais soulever ce matin avec vous, c'est cette intervention auquel cette femme ne s'attendait pas. Dieu va lui dire, « Ok, prépare-moi un gâteau avec ce peu de farine et ce peu d'huile que tu as. » Et alors qu'elle va préparer ce pain, ce gâteau, comme il est dit dans la parole, Dieu va multiplier sa farine, Dieu va multiplier son huile. Ça a dû être quelque chose de remarquable parce que certainement elle plongeait sa main dans le pot de farine, elle en retirait. Certainement que lorsqu'elle retirait, elle avait l'impression qu'il n'y avait plus rien et quand elle replongeait sa main, il y en avait encore. Et ça a été comme cela pendant tout le temps qu'Élie a été à ses côtés. Dieu a béni cette femme au travers de la présence du ministère d'Élie. Et je veux vraiment vous inviter à croire et à imaginer possible que Dieu, au travers de ce que vous vivez et au travers de ce qui se passe, peut-être dans vos familles, dans votre maison, Dieu a cette capacité de faire émerger dans votre famille une bénédiction insoupçonnée. Dernière caractéristique, Dieu est un Dieu qui honore la foi. Dieu va honorer la foi de cette femme. Et l'intervention de Dieu dans la vie de cette femme le témoignage de foi de cette femme va être déterminant dans la bénédiction qu'elle va obtenir de la part de Dieu. On est appelé à marcher par la foi. Cette femme va faire un acte de foi énorme. Peut-être pour certains, on pourrait penser, mais on pourrait dire à cette femme, mais tu as vraiment réfléchi à ce que tu faisais. Tu as vraiment réfléchi à ce que tu es en train de faire. Tu es en train de donner ton dernier repas à un homme que tu connais d'ailleurs à peine. Tu discernes peut-être en lui un ministère, mais tu lui as tout donné. Peut-être des voisins, sa famille ou ceux qui l'en restent, peut-être lui a dit mais pourquoi tu as fait une chose pareille ? Seulement, et je voudrais vraiment mettre l'accent là-dessus, la foi, ce n'est pas tant quelque chose que l'on va s'imaginer ou que l'on va... Non, la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Dieu ne nous emmènera pas sur le terrain de la foi sans qu'il y ait sa parole. Surtout dans des domaines extraordinaires ou de cette façon particulière de comment Dieu va intervenir dans la vie de cette femme. Dieu va donner un ordre précis au travers de la bouche de son serviteur. Et c'est sur cette parole que cette femme va s'appuyer pour accomplir un acte peut-être que l'on pourrait considérer comme fou. Dieu nous amène des fois sur ce terrain-là, quand Pierre est dans le bateau et que Pierre dit « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur les eaux. » Dieu va lui dire, Jésus va lui dire « Viens. » Ou quand Jésus, à un moment donné, avec les disciples qui avaient pêché toute la nuit, sans rien prendre, et Jésus va leur dire « Mais jetez les filets de ce côté-là. » Et j'aime cette parole, « Sur ta parole, Seigneur. » Je jetterai les filets là où tu me l'as dit, sur ta parole. L'une des caractéristiques principales de l'intervention de Dieu, c'est sur sa parole. N'inventons pas des paroles, n'inventons pas, ou parce que Dieu peut, finalement Dieu veut nous y conduire, mais je crois que Dieu veut diriger son peuple. Finalement, la foi, c'est pas tellement... quelque chose d'intellectuel, non, c'est de l'obéissance, la foi. La foi, ce n'est pas que quelque chose de spirituel ou dans l'idée qu'on pourrait s'en faire, mais la foi, c'est quelque chose qui s'appuie sur une obéissance à sa parole. J'obéis. J'obéis, Seigneur. Je ne comprends pas trop. Je ne sais pas où tu veux en venir. Je ne sais pas comment ton intervention va prendre place dans ma vie. Je ne sais pas comment tu vas mettre les choses en place, Seigneur, mais j'obéis. L'intervention divine dans cette femme et au travers de ses quelques caractéristiques va prendre forme. Dieu va bénir cette femme abondamment à tel point que, et c'est ce qui nous est dit dans ce texte, la farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée. La bénédiction, et si vous avez l'occasion de lire un peu plus ce passage, ne va pas s'arrêter là parce que le fait que cette femme ait accepté le serviteur de Dieu va apporter une bénédiction supplémentaire puisqu'il nous est dit par la suite que son fils, son unique fils, va mourir. Et là encore, Dieu va bénir cette femme. Là encore, Dieu va secourir cette femme puisque Élie va ressusciter ce fils. Dieu n'était pas au bout des bénédictions qu'il voulait répandre sur la vie de cette femme. Et de la même manière, Dieu n'est pas au bout des bénédictions qu'il a pour vous, mes frères et sœurs. Alors, soyez dans la confiance. Dieu est un Dieu de timing. On ne sait pas comment les choses vont prendre place, si même les circonstances, et dans quelles circonstances Dieu permet dans nos vies, et où cela va nous mener. Mais Dieu est au contrôle. Dieu va se servir de quelque chose d'inattendu dans la vie de cette femme, ce qu'elle peut-être même n'imaginait même pas. Je n'ai plus qu'un peu de farine et un peu d'huile, c'est tout ce que j'ai, Seigneur. Ah bon ? Regarde ce que je vais faire dans ta vie. Regarde ce que je suis capable de faire au travers de ce peu. N'imagine pas que la bénédiction va peut-être arriver d'en haut, mais Dieu peut se servir de ce que tu as dans ta vie, de ce qui est en toi, de forces insoupçonnées, de choses qui vont te permettre d'émerger et d'aller de l'avant. Et enfin, et c'est mon dernier point, la foi de cette femme et comment Dieu va intervenir et la caractéristique qui est propre à la vie de cette femme, ce qui va caractériser l'intervention de Dieu dans la vie de cette femme, c'est son obéissance à la parole de Dieu. Elle va obéir. Il va y avoir de la foi, mais cette femme va obéir à la parole de Dieu. Et Dieu va se manifester au travers d'elle. Que son nom soit béni et loué. J'ai bien compris quelques instants. Mon Seigneur, mon Jésus, combien on a besoin de comprendre comment tu interviens dans les vies. Parce que tes voies, tes sentiers sont tellement au-dessus des nôtres. Ton timing, Seigneur, est tellement au-dessus du nôtre. Tes interventions, Seigneur, nous dépassent de loin. Les pièces que tu avances, les circonstances que tu permets. Seigneur, je suis tellement interpellé du fait que tu es coupé à un moment donné ce torrent à Sarepta. Peut-être Élie, il n'a pas compris sur le moment, mais pourquoi tu fais ça, Seigneur ? Mais au final, la finalité de la chose, c'était d'amener ton serviteur à devenir une bénédiction dans la vie de cette femme. Oh, les circonstances nous dépassent tellement. Et Seigneur, aide-nous, c'est vrai, mon Jésus, à avancer au-delà des circonstances, au-delà de nos incompréhensions. Si dans l'épreuve et dans les difficultés, comme c'était le cas de la vie de cette femme, Seigneur, amène-nous à aller encore plus loin, à aller au-dessus, mon Seigneur. Aide-nous, mon Jésus, à accepter ta parole telle qu'elle est. Aide-nous à accepter que tu es maître et souverain dans nos vies. Mon Seigneur, comme cette femme a pu le vivre, mon Jésus, aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Viens répondre aux besoins, au moment où tu l'auras choisi, comme tu l'auras choisi. Seigneur, on peut percevoir et on perçoit ça tellement souvent, Seigneur. Tes interventions sont tellement particulières. Je te rends grâce pour ces interventions et tes interventions dans ma vie qui m'ont tellement surpris, où je ne m'attendais pas à ta bénédiction là, mais c'est souvent, Seigneur, tu interviens dans nos vies et tu te sers de ce qui est présent. Et quand tu t'en sers, Seigneur, tu t'en réjouis, tu te glorifies au travers de cela. Seigneur, merci de nous aider à rentrer dans cette obéissance de la foi. Obéissance sans laquelle, mon Seigneur, foi sans laquelle, il nous est impossible de t'être agréable. Et l'accomplissement de ton intervention dans la vie de cette femme était conditionné à cette foi. Cette foi sans questionnement, cette foi qui l'a amené à faire un acte tellement fort pour la gloire de ton nom, qui a conduit à son salut, au salut de sa famille, au salut de son fils, au salut d'Élie. Merci Seigneur pour cette maman, pour son exemple. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de bénédiction qui intervient. Merci pour tous ceux qui passent par l'épreuve et pour lesquels tu es déjà en train de préparer le moyen d'en sortir. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour tes bontés, Jésus. Amen. Amen.